Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, le coup d'envoi de Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit sans aucune interruption pour décrypter l'actualité en compagnie de Maître Laure Alice Bouvier ce soir. Bonsoir. Bonsoir Maître, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, merci d'être présente, tout comme Richard Ramos, monsieur le député Ramos, merci d'être là, député MoDem du Loiret, on ne présente plus Yoann Uzaï du service bonsoir, politique Julien. De CNews, bonsoir cher Yoann, de l'autre côté de la table, monsieur Jean-Claude Dacier parmi nous, bonsoir Jean-Claude, chroniqueur politique, bonsoir. Arthur de Vatrigan, journaliste, bonsoir Arthur. Bonsoir. Et bonsoir Eric de Ritmaten, ça fait plaisir de vous voir sur le plateau de Soir Info Eric pour parler économie, notamment de ce déficit abyssal, indigne de la France, de notre pays la France. On en parlera dans une minute, on va largement décrypter ce déficit et les conséquences que ça peut avoir. Monsieur le député Ramos, juste parce que vous serez avec nous une vingtaine de minutes dans cette émission et dans la deuxième partie on va parler de cette information qui est assez stupéfiante et je voulais juste prendre quelques secondes avec vous pour l'évoquer et avoir votre commentaire là-dessus. Cet homme qui était menacé de mort, ce proviseur, vous le savez, de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris, menacé après un incident lié au voile porté par l'une de ses élèves, a quitté ses fonctions. On l'a appris aujourd'hui. Selon un message adressé aux parents, aux élèves, aux enseignants, aux membres du conseil d'administration, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Vous savez qu'il était donc menacé de mort, ce qui n'a toutefois pas été confirmé par le rectorat qui, lui, invoque des convenances personnelles. Je le disais, Richard Ramos, c'est une information qui est stupéfiante, que franchement, je pourrais qualifier d'indigne. Voilà où nous en sommes en 2024. Quelle inversion des valeurs.
Oui, à la fois, si c'est son choix personnel, pas loin de la retraite, c'est son choix vraiment intime.
Mais ça veut dire... Pardon de vous interrompre dès les premières secondes, mais je ne suis pas sûr que le fait qu'il soit proche de la retraite ait beaucoup joué. Je pense que c'est quelqu'un qui avait juste peur d'être égorgé ou poignardé. Oui, on parle.
J'allais continuer ma phrase.
Pardonnez-moi.
En disant que si rien ne s'était passé, il serait resté. Oui. Et donc, ce qui veut dire que dans ce qui doit être quelque part quelque chose de sacralisé, qu'est l'école... Aujourd'hui, nos enseignants ont ce sentiment d'être en danger dans l'école. Et donc, oui, ça dit beaucoup sur notre société. On doit s'en indigner, vous avez employé le terme, et on doit s'en indigner. Il faut sanctuariser l'école et faire en sorte que, à la fois les forces de l'ordre et à la fois quand il y a des coupables, ils soient plus sévèrement sanctionnés. Parce que si demain, les profs, vous savez... Moi, je suis député à Orléans. Je vais beaucoup, beaucoup dans les classes. Beaucoup, beaucoup dans les classes. D'accord ? Dans les classes des quartiers, j'ai un quartier en difficulté. J'y suis beaucoup. On voit bien que les professeurs sont inquiets.
Mais j'ai envie de vous répondre. Cet homme se serait senti protégé par l'État, senti protégé par l'institution éducation nationale. En serions-nous là ? Ça en dit long, je trouve, sur une forme de soumission également face à cette menace islamiste.
Non, mais... Quelles que soient les menaces, je veux dire qu'elles soient islamistes ou de gens complètement détraqués, on doit protéger l'école. Et donc, alors c'est pas simple quand vous avez des individus qui sont tout seuls, qui font pas partie d'un réseau et qui viennent dans l'école pour commettre des crimes, c'est pas simple. Donc on peut commenter, c'est très facile de commenter, mais d'aller protéger dans l'école avec des gens qui sont des extrémistes, qui se sont, je dirais, gorgés des réseaux sociaux pour aller commettre ces crimes-là, c'est pas simple. Voilà. Mais vous avez raison. Ça dit des choses sur notre société et il faut des réponses fermes.
Et ça dit des choses sur notre combat face à l'islamisme et encore une fois, ce qui nous, les premiers mots qui nous viennent également avec cette affaire et cette information du soir, c'est le pas de vague est toujours présent, notamment dans l'éducation nationale. Merci d'avoir commenté quelques instants.
Ça, vous avez raison.
Je rappelle que, évidemment, à cette actualité, on en fera un tour de table, on en débattra dans la deuxième partie. Je voulais l'avis de monsieur le député qui restera quelques minutes seulement avec nous ce soir. Les comptes publics. Nous y venons. Les comptes publics de la France qui vacillent. Je me tourne vers Eric de Ritmaten. En 2023, le déficit public publique a atteint, on l'a appris aujourd'hui par l'INSEE, 5,5% du PIB, le produit intérieur brut. C'est soit 15,8 milliards d'euros de plus que ce qu'avait prévu le gouvernement. Un résultat qui place la France parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne et surtout qui vient creuser encore plus notre dette. Désormais, et ce sera le dernier chiffre que je vous donnerai parce qu'on est déjà enivré de tous ces chiffres, 3101,2 milliards d'euros, un record qui pose question. Et pourtant, ce matin, Bruno Le Maire a confirmé que l'objectif de désendettement de notre pays restait le même. Écoutez-le.
Les finances publiques de l'État doivent être établies. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais essayer de vous expliquer comment. Croyez-moi, ma détermination à rétablir les finances publiques et à repasser, François Langlais citait le chiffre, sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte, je dirais même qu'elle est totale. Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires, parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid.
De rythme à tenir, des recettes moindres que prévues, on l'a compris, mais aussi des dépenses qui ont continué à progresser à très bon rythme. C'est la conséquence. Voilà le résultat. Nous sommes 22e sur 27 dans l'Union européenne. Si je le dis trivialement, c'est la honte. Comment est-ce qu'on est arrivé à un tel déficit?
C'est une accumulation d'erreurs. D'abord, il faut voir, si vous voulez, il y a d'un côté le déficit, c'est la mauvaise gestion. Quand vous êtes père de famille, on vous dit qu'il faut gérer en bon père de famille. Vous faites attention à votre budget. Vous évitez que ça dépasse. Vous savez ce qui rentre et vous savez ce qui doit sortir. Là, on a dérapé complètement. Alors c'est une accumulation peut-être d'erreurs. D'abord parce que l'État a, vous savez, donné beaucoup d'argent par exemple, à la SNCF. Il y a eu après les gilets jaunes avec beaucoup d'argent qui est sorti. Vous avez bien sûr le Covid, ça a joué bien entendu. Mais il y a aussi tout un autre pan que l'on oublie, c'est bien sûr les dépenses sociales en France qui sont considérables. Il ne faut pas oublier que ça représente un tiers de la richesse que l'on crée en France. C'est 800 milliards quand même, 800 milliards par... Un tiers, donc, ce que l'on génère comme chiffre d'affaires en France, vous rendez compte? Et c'est la moitié de la dépense publique. Voilà. Et donc là, il y a sûrement un tour de vis à donner. Il y a eu aussi les baisses d'impôts qui ont été consenties aux entreprises. C'est vrai que c'est tombé peut-être à un mauvais moment. Ça fait des années que les entreprises, les patrons disent, on paye trop d'impôts. Ils étaient à 33% de fiscalité sur les entreprises. Finalement, le gouvernement, depuis Emmanuel Macron, a décidé de baisser par palier, mais c'est tombé à un mauvais moment. C'est pareil pour la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle a été supprimée, remplacée finalement par la taxe foncière qui a augmenté fortement. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a dû compenser ce manque à gagner pour les collectivités en mettant la main à la poche. C'est très difficile à expliquer parce qu'il y a tellement de successions d'erreurs. Vraiment, c'est pas une gestion de bon père de famille.
J'ai noté que ça fait 50 ans depuis, je crois, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, que les comptes n'ont pas été à l'équilibre. Avant de faire le tour de table, un dernier mot, parce que j'ai vu, et Jean-Claude vous prendra la parole dans une seconde, je voudrais juste commenter ce chiffre parce que moi, j'y ai pas cru en le voyant. Mais a priori, c'est bien vérifié. 900 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Oui, le premier responsable de la situation actuelle budgétaire de la France, c'est Emmanuel Macron.
Écoutez, en 2017, quand il est arrivé, on était à 2200 milliards de dettes. C'était la dette, faut pas
confondre. Et là, on est à 3100.
La dette, c'est les erreurs qui s'accumulent et puis d'année en année, ça devient une ingérable. Et là, on est à 3100. Effectivement. Alors, je vous le disais, c'est tout ce que je vous ai raconté, c'est que on est obligé d'emprunter même pour rembourser la dette. Parce que la charge d'intérêt est en train de grossir. Vous savez que si rien ne change, en 2027, quand Emmanuel Macron quittera le pouvoir, on aura 77 milliards d'intérêts. On ne parle plus de dette, là, on parle de l'intérêt sur la dette.
C'est plus que l'impôt sur le revenu.
Oui, et ce sera surtout le premier poste de dépense.
Premier poste de dépense.
À un moment où on vous dit, il faut financer la transition écologique, parce que les nouvelles dépenses. Les nouvelles dépenses, c'est la transition écologique, c'est maintenant les dépenses militaires. Vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron est arrivé, il a dit on va baisser les dépenses militaires. D'ailleurs, le général de Villiers était parti pour cette raison, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, c'est machine arrière, on peut le comprendre, mais est-ce qu'on a l'argent pour faire ça?
On l'a vu, Jean-Claude Dacier, on commence ce tour de table. Derrière nous, il n'y a guère que la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Lettonie et l'Italie. Il n'y a pas de quoi fanfaronner.
Bon, que ça aille très mal en France, c'est une évidence. On en parle quasiment tous les jours. Et ce n'est pas un accident de conjoncture. Ça doit faire 40 et quelques années, depuis les années 80, en gros.
Depuis 1975, exactement.
Oui, peut-être même.
Dernier budget, en fait, en réalité.
Que l'on additionne les mauvaises décisions les unes derrière les autres. On a un magnifique État-providence que, paraît-il, le monde entier nous envie, mais que personne n'imite, et qui n'est finançable désormais, et depuis longtemps, que par l'emprunt. Alors, il y a des limites à tout. Je ne vais pas parlé trop longtemps, donc je vais faire court.
Non, mais au-delà de, vous savez où on va en venir, cher Jean-Claude. La question, tous ces chiffres, etc., ça peut paraître un peu abstrait pour les gens qui n'ont pas le nez dedans toute la journée. La question que se posent les gens qui nous regardent, si on est à 5,5%, une dette astronomique, on est dans le trio des trois plus mauvais élèves endettés de la zone euro. La question que se posent les gens qui nous regardent, c'est qu'est-ce qu'on fait de mon argent et est-ce qu'on va me ponctionner encore un peu plus dans les années qui vont venir ? Voilà ce qu'on se demande.
On peut légitimement s'interroger sur que fait-on de notre argent ? Le gâchis est énorme. La bureaucratisation, on a 30% de fonctionnaires en plus. Je peux vous en parler jusqu'à demain matin.
On va éviter.
Le problème est tout de même que j'aimerais bien entendre le président de la République sur le fond, de nous dire ce qui nous guette. Moi, ma réponse est l'austérité. Alors, je sais.
La faillite ?
C'est un mot qui. Non, l'austérité. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Le Premier ministre a dit ce soir non, on parle de sérieux, on parle d'État protecteur, on ne parle plus d'austérité. Et puis, je trouve que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est un homme qui connaît ses dossiers, et qui est assez habile dans le discours, mais très honnêtement, il y a un bout de temps qu'il aurait dû dire au président de la République, c'est ça,
ou je démissionne,
ou je m'en vais. Il est resté.
Et à l'arrivée, il porte la responsabilité également cette année à Bercy.
Comme il veut être aussi candidat à la présidence de la République, dans quelques années, il va payer la facture. Et d'autres la paieront à leur place. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement, j'ai fini.
Ouais.
C'est qu'ils veulent tous être réélus. Le problème que nous avons avec tous les présidents de la République qui se sont succédés depuis François Mitterrand, c'est qu'ils veulent tous être réélus. Et que
c'est qu'il va falloir prendre des mesures impopulaires.
Toutes les mesures à prendre aujourd'hui seront des mesures très impopulaires. Qui va les prendre ?
Alors, Alice Bouvier, vous rajoutez tout de suite. Je veux juste qu'on entende cet échange à l'Assemblée nationale tout à l'heure entre le député RN du Var sur cette question du déficit donc, et Bruno Le Maire qui lui répond. Regardez.
Ce n'est plus une dérive, c'est une sortie de route. Nos comptes publics ne sont plus tenus, ce sont des faits. Tout cela, nous vous l'avions annoncé, mais comme à votre habitude, vous n'avez rien écouté. Tout cela, c'est votre action, dont vous continuez entre deux livres à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, « de très bons résultats ». En fait, Bruno Le Maire ne se trompe pas, ce sont les chiffres qui n'ont pas compris ce que Bruno Le Maire attendait d'eux.
Nos perspectives de croissance, nos perspectives économiques pour 2024, pour 2025, pour 2026, elles sont positives. Parce que contrairement à vous, nous croyons dans les Français, nous croyons nos entreprises françaises, nous croyons notre capacité à nous redresser économiquement dans les années qui viennent.
Maître Bouvier, échec terrible donc pour Bruno Le Maire, 7 ans à Bercy pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, déficit quasi record.
Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que vient de dire M. Dacier et ce qu'a dit Johan Usaï. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on cherche des solutions. Ça fait 40 ans. Ça fait depuis, effectivement, la crise pétrolière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait du bricolage. En fait, on a complètement négligé la dette. Il est loin le temps où on avait Thierry Breton qui s'était porté en fer de lance pour la dette. Et en réalité, aujourd'hui, on a un gouvernement qui patauge totalement et qui agit sans aucune boussole. La vraie question, elle est simple. Elle est comment arriver à réduire les dépenses sans accroître la fracture sociale et sans freiner la croissance économique. Donc ça, c'est la question. En réalité, la solution, elle est... j'ai envie de dire relativement simple, en tout cas sur le papier, il faut faire une revue des dépenses, il faut mettre à plat toutes les dépenses, voir là où il y a des gaspillages, parce qu'il y en a.
C'est pas compliqué, on est le pays au monde qui paye le plus de charges, de cotisations sociales, et le pays au monde qui en donne le plus.
Oui.
Donc à un moment, c'est soit l'un, soit l'autre.
Tout à fait,
il n'y a pas 36 solutions.
Et on s'est aperçu que dans des établissements d'État, par exemple Pôle emploi, il y avait des gaspillages. Je parle aussi, à moindre mesure, les subventions que donne Anne Hidalgo, c'est pareil. Il faut déterminer tout ça. On a aussi 15 milliards de dépenses supplémentaires pour les dépenses de fonctionnement de l'État. Il faudrait voir en 2023 à quoi exactement est-ce que ça correspond. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va payer des intérêts sur emprunt. On a déjà 3100 milliards et donc bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra plus emprunter. Et donc, ils sont parfois inutiles. Donc ça, c'est la première chose qui est à faire. Et je pense que ce qui serait intéressant aussi de faire, ce serait de mettre en place un organe de concertation qui représente l'État, les collectivités locale, la sécurité sociale, parce qu'il ne faut pas oublier que les dépenses publiques...
Parce le veto, hein.
Oui, mais c'est ce que... Alors, vous allez me dire que c'est utopique, certainement, mais je pense que c'est tout aussi utopique de vouloir couper dans les dépenses sans réfléchir véritablement, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des crises sociales, on va avoir des gens qui vont descendre dans la rue, on va avoir à nouveau des gilets jaunes, on va avoir à nouveau des agriculteurs...
Mais si vous annoncez des taxes, des mesures de restriction, des hausses d'impôts, vous allez les avoir, les gilets jaunes, hein, justement. Alors, c'est peut-être pour ça que personne n'a le courage de les annoncer.
Alors, pour le moment, ils les annoncent pas. Alors, peut-être que ça va être fait après les européennes. Pour le moment, Bruno Le Maire dit qu'il ne compte pas le faire. on ne sait pas ce qui va être. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va taxer? Est-ce qu'il faut taxer les entreprises avec le surprofit? Est-ce qu'il faut taxer les retraités? Ça pose encore une fois des difficultés. Mais en fait, la réalité, et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'on a un arsenal d'outils pour gérer justement notre entreprise. On a des outils managériaux, c'est-à-dire des outils d'entreprise qu'on devrait utiliser et qu'on pourrait utiliser. Et ça, ça nous permettrait de pouvoir, on va dire, mieux gérer cette dette.
Monsieur le député Ramos, avant de revenir vers vous, Eric, je sais que Johan veut prendre la parole également, on va conclure ce tour de table. Je le disais il y a un instant, mais je vais le répéter, c'est pas possible d'être dans le pays qui a le plus d'impôts, le plus de prélèvements, de voir que nous en sommes là. On a envie de demander à ceux qui nous gouvernent, mais qu'est-ce que vous faites de notre argent ?
Alors, il y a plusieurs... on a balayé. D'abord, la France, elle n'est pas en faillite, parce que ce qui est terrible...
Pas encore.
Elle n'est pas en faillite, la France. Parce que quand
ça
vous
consomme,
allez...
Ça consomme.
Non, mais...
Ouais, tout va très bien, madame la marquise.
Mais ça va pas très bien.
Là,
mais quand
rien.
Vous allez... Alors, moi, je vais vous dire, ça va pas très bien, mais il n'y a jamais eu autant d'épargne en France, d'accord ? Et il y a une partie des Français, notamment de ceux qui rouspètent, qui vont très bien. Donc, il faut arrêter aussi de dénigrer matin, midi et soir ce pays qui... aussi doit continuer à s'aimer et pas à le dénigrer tous autour de la table. D'abord, je pense que ce pays-là, il doit.
Mais c'est parce qu'on l'aime, ce pays, qu'on est malheureux.
Mais on a le droit. Mais moi aussi, je l'aime. Et ensuite, le problème, c'est quoi le problème ? C'est qu'effectivement, les gens y payent et les gens se disent j'en ai pas pour mon argent. Ça veut dire que j'ai l'impression de payer. Quand je vais à l'hôpital, moi je le vois à l'hôpital d'Orléans, vous avez des personnes qui restent 3 jours dans le couloir sans être changées. Vous avez aujourd'hui des gens qui mettent leur enfant à l'école, alors que nous, moi qui suis dans une cité à l'époque, mon père payait des impôts, il était ouvrier, mais il payait de l'impôt.
On va aller très vite, monsieur le député. Toutes nos institutions sont en voie de clochardisation.
Non, mais conclusion.
Conclusion. Ensuite, si on ne sait pas où
on
va l'impôt des impôts.
On met beaucoup d'argent.
C'est la question que je posais.
Le problème qu'on a, c'est que, par exemple, on va prendre l'enseignement. Personne ne veut être devant les élèves. Par contre, on va prendre des postes, ils vont aller au rectorat. C'est-à-dire, personne ne va vouloir être infirmière ou être soignante, et on va mettre des gens en arrière-boutique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus capable de livrer le dernier kilomètre de service public rendu. C'est-à-dire qu'on déverse de l'argent.
C'est très juste.
Mais en fait, parce qu'on a, il faut inverser la pensée. Il faut partir du citoyen. C'est-à-dire qu'il faut partir des problèmes des gens. Et le problème qu'on a dans les ministères, avec les politiques auxquelles on n'est pas courageux...
Vous le dire, vous avez de la majorité, monsieur le député.
Vous croyez que je fais quoi ? Et avec les technocrates. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des tableaux Excel. Il ne faut pas faire en sorte que l'ARS, qui, elle, fait des tableaux Excel parce qu'elle ne dépend pas du préfet, l'Agence régionale de santé, parce qu'elle est sous tutelle, non pas du préfet, mais de son ministre, nous fasse des tableaux Excel. Il faut partir de la vraie vie des gens... Et dire comment je délivre le dernier kilomètre pour qu'il soit efficace.
Et s'attaquer à la fraude sociale aussi, parce que c'est aussi un gros problème.
C'est encore un autre sujet, mais voilà, c'est vrai que ça
fait partie des quand même du.
Et la fraude fiscale qui pèse encore plus lourd, je crois. Écoutez Bruno Le Maire, un dernier extrait sur cet appel à une prise de conscience collective. Arthur, vous réagissez. Bruno Le Maire, il est perdu dans ses dettes.
Je suis ouvert à tous les débats. C'est pas à moi de trancher. Comment est-ce que les économies vont être faites ? Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de faire des choix dans nos dépenses publiques, dans toutes les dépenses
donc
publiques,
quelqu'un
celles
qui gagne
de l'État,
aujourd'hui 4 000
les
euros.
Dépenses sociales et les collectivités locales.
Comment faire, Arthur de Vartrigan ? On n'ose pas annoncer des taxes, des mesures de restriction, des hausses d'impôts, parce que, encore une fois, je le disais, la menace, le fantôme des gilets jaunes plane.
Quel est le mot préféré du ministre de l'économie, quel qu'il soit ? C'est le mot croissance en France. Qui est le mot préféré des candidats, quelle que soit l'élection, c'est le mot pouvoir d'achat.
C'est vrai.
Et ben pourquoi ? Parce que le problème, c'est notre modèle. On a un modèle depuis 40 ans qui n'est plus le modèle de la productivité, qui n'est plus le modèle de l'industrie. Et donc, d'où nos élites ont décidé que le maître étalon de notre économie, c'était la consommation. Or, la consommation, ça repose sur quoi ? Sur des consommateurs. Et ce qui est bien avec les consommateurs, c'est que peu importe leur carte d'identité, peu importe leur langue, peu importe leur diplôme, peu importe leurs compétences et peu importe leur compte en banque, il faut qu'ils dépensent et c'est comme ça qu'on mesure. Or, la plupart de nos consommateurs ne sont pas solvables. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la France qui va les rendre solvables. Un exemple tout bête, c'est par exemple sur l'énergie. On vous dit, on va faire, vous n'avez pas les moyens de rénover votre logement, on va faire la prime à 1 euro pour rénover votre chaudière. Vous investissez ça, c'est l'État qui paye, ça part en déficit, ça alimente le privé. Et derrière, qu'est-ce qui fonctionne ? Vous avez des fluctuations financières tout au haut niveau de la strate. Donc le problème, en fait, il est purement sur notre modèle économique. C'est uniquement ça. Notre modèle économique qui est le tertiaire, le service. On n'a plus de production, on n'a plus d'industrie. Donc tertiaire service, vous avez 90% du territoire qui n'existe plus. c'est la France périphérique, la France zone rurale. On concentre tout dans les grandes métropoles. Donc c'est là où vous dites qu'il y a des gens qui vivent très bien. C'est les 5% des gens qui vivent dans les grandes métropoles. À côté, il n'y a plus rien, sauf que les à côté qui n'ont pas de boulot, ils doivent quand même consommer. Donc on les fout sous paire sociale. Et la paire sociale, dans ce qu'ils consomment, c'est à 2/3 de biens importés. Ce n'est même pas des biens produits en France. Donc le problème, il est juste il est structurel. Il est économique et politique et c'est un modèle que nos élites ont choisi il y a 40 ans et que les élites successives ont décidé de continuer.
Je voudrais qu'on fasse dernier extrait de Bruno Le Maire qui veut rappeler aux Français qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Est-ce crédible? Vous allez nous répondre, Eric.
Mais je pense
vous avoir apporté la preuve en vous parlant des dépenses de l'État, en vous parlant des dépenses de santé très concrètes, en vous parlant des opérateurs, qu'on peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé.
C'est crédible, Eric?
Il ne faut pas qu'ils augmentent les impôts, ce serait une erreur. Oui, c'est à l'État de régler. C'est d'abord, ils se sont engagés à ne pas les augmenter. Donc, en revanche, à partir de 2027, il faut s'inquiéter. À partir de 2027, il faut s'inquiéter. Voyons. Non, mais ça serait une erreur monumentale. Le gros de l'impôt pèse sur les classes moyennes. On le sait bien.
Mais vous pouvez peut-être le faire accepter aux classes moyennes, justement, si vous faites payer les plus riches, ce que rappelait Maître Bouvier, peut-être taxer les super profits.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens
de faire accepter l'impôt.
Ce que tu dis n'a pas de sens. Pardonne-moi.
Ah, bah merci.
Mais non, mais le faire payer les plus riches, ils payent des impôts, les plus riches, déjà. Ils en payent même beaucoup.
Je parle des taux d'imposition.
Et donc tu vas régler ton problème un an.
Cher maître d'acier.
Au maximum 2 ans. Tu vas piquer du pognon aux super riches, paraît-il, s'il en reste, qui se partiront. Dès qu'ils auront payé, ils partiront à Amsterdam ou ailleurs.
Il en restera un peu.
Et puis tu régleras le problème un an ou deux. Oui. Si on ne change pas le modèle économique dont parlait notre ami, on ne s'en sortira pas. L'heure n'est plus aux expédients. L'heure est aux réformes de fond, aux réformes de structure. Le problème est de savoir quelle est la politique qui aura le courage de commencer à les faire.
C'est ça.
Je veux bien admettre qu'il y aille en douceur, mais il faut se fixer des objectifs et s'y tenir.
Éric, je vous laisse conclure. Et Maître Bouvier, Monsieur Ramos également. Et on en terminera là. Non, c'est vrai qu'Yohann, je vous ai promis la parole, pardon. Donc on
juste pour dire que c'est à l'État, c'est fait effectivement de réduire ses dépenses. C'est très important d'arrêter de subventionner tout le monde. Parce que là, à mon avis, je pense qu'il y a vraiment des dépenses. Et quand on regarde l'AME, je regardais, c'est quand même 1,7 milliard d'euros. Ça représente une somme énorme pour des personnes qui ne cotisent pas en plus. Je regardais aussi les transports sanitaires. Vous savez, c'est souvent dénoncé. 6 milliards 200 millions.
Les transports sanitaires, c'est les taxis.
Et vous avez une partie, alors les taxis, puisque vous en parlez, c'est 2,7 milliards uniquement de transport, on peut dire de confort, parce que les cas les plus graves, bien sûr que c'est normal qu'ils soient transportés. Si vous regardez les festivals, si vous regardez les subventions au cinéma,
c'est marginal.
Quand on fait les additions, ça devient plus marginal.
Que c'est pas rien, peut-être. Au contraire.
On en est même aujourd'hui à payer les ressemblages ou à payer les accros que tu peux faire à ta veste. Non mais moi, je veux juste ajouter un mot. Je pensais naïvement, je suis vraiment le premier des naïfs et des idiots autour de cette table. Naïvement que le président de la République allait changer ça. Il a commencé. Il y a quelques points qui ont été marqués par les entreprises. Il y a une stabilité fiscale qui fait que ce pays est plus attractif qu'il ne l'a jamais été. Mais néanmoins, quand vous faites le bilan de ce que a coûté les gilets jaunes, 17 milliards, le Covid, alors là, je ne sais plus, 500, 600, 700 milliards.
400.
400 milliards. Et maintenant, la crise inflationniste suite à la crise en Ukraine, je veux dire, on est confronté maintenant non plus au coup de rabot, mais aux réformes de fond. Les fratons.
Monsieur Ramos, on va laisser aux futures générations une situation désastreuse quand même. Hein. Une montagne de dettes qui plane au-dessus de la tête des Français et de nos futures générations.
Alors, moi qui suis modem, le thème de la dette de François Bayrou, il l'a tenu pendant des années sur la dette. Des années, François Bayrou, il en a même écrit un livre sur la dette. Moi, je prends un exemple, vous avez parlé de l'impôt sur les sociétés. C'est pas normal qu'aujourd'hui, tous nos artisans, toutes nos petites PME, elles payent 30 d'impôts, alors que les multinationales, elles sont à 7 en moyenne. Donc là, il y a peut-être un peu sur les multinationales, aller leur piquer un peu les super profits. Parce que mon artisan... Ben, il faut aller le chercher. Parce que mon artisan, moi... Et là, c'est quelques milliards.
C'est les expédients démagogiques. Voilà ce que c'est.
Non, il faut aller les prendre, parce que mon artisan, lui, il n'a pas envie de payer.
Prenez-le, puis la prochaine fois, ils iront déclarer leurs impôts ailleurs.
Mais de toute façon, ils sont installés
installé au Luxembourg.
Voilà. Et puis, je vous laisse terminer, on va rapidement conclure.
Vous avez raison, de toute façon, là on voit bien Bruno Le Maire, c'est pas très courageux, parce qu'il dit c'est pas à moi de prendre la décision.
Oui.
C'est à lui de la prendre la décision. Donc là il n'est pas courageux, parce qu'il est, comme vous l'avez dit M. Dacier, certainement candidat à la présidentielle. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on ait vraiment des réformes qui nous permettent, notamment sur la TVA sociale, de pouvoir voir que si des produits sont importés et on les taxe plus, pourquoi ? Parce que comme on aide les plus pauvres qui achètent des produits importés, il faut taxer les produits importés pour pouvoir rééquilibrer une partie de la balance.
Johan, vous n'avez encore rien dit et vous conclurez, Maître Bouvier.
Bon, d'abord, on voit bien que Bruno Le Maire a pris un sacré coup sur la tête avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui.
Oui.
Ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie. Je me souviens de sa campagne à l'époque pour la primaire de la droite, on était en 2016. Il avait axé sa campagne précisément sur le sérieux budgétaire, sur le fait qu'il fallait déjà commencer à réduire les déficits. Or, il restera le ministre de l'économie qui aura engendré dans ce pays la plus grande dette de l'histoire en réalité en si peu de temps. Donc il doit bien sentir que ça risque...
Et c'est la responsabilité d'abord de Bruno Le Maire ou d'Emmanuel Macron ?
Mais des deux.
Les deux, mon capitaine.
Parce qu'effectivement,
général.
S'il avait eu un désaccord profond concernant la politique économique de ce pays, quand on est un homme d'État et qu'on aspire aux plus hautes responsabilités, on démissionne. On fait savoir qu'on n'est pas d'accord et on s'en va.
Certes.
Et il sent bien, là, manifestement, que cette séquence risque de l'handicaper pour une éventuelle candidature en 2027. Après, quand j'entends le débat autour de cette table, chacun y va de son idée. On pourrait taxer davantage ceci, prendre plus d'argent là. Oui, d'accord, peut-être. Mais je pense, moi, qu'on pourrait peut-être commencer par réfléchir à diminuer les dépenses plutôt que d'aller taxer un pays qui est déjà surtaxé, qui fait partie des pays au sein de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. On atteint un record. Dépenses sociales absolument abyssales. Il faut aller taper là-dedans et ce sera fait. Et le gouvernement ne le dit pas aujourd'hui, bien sûr, parce qu'Emmanuel Macron va arriver en fin de mandat. Mais à partir de 2027, il est évident qu'il faudra à la fois, compte tenu de la situation, augmenter les impôts, ce sera inévitable, et baisser dans les dépenses sociales. Il faudra faire les deux, hélas, parce que nous avons commencé à nous préoccuper de ce problème beaucoup trop tardivement.
Un dernier mot, Laurence Bouvier, puis je vais avoir une note positive qui va faire plaisir au député Ramos qui est à côté de vous. La France reste quand même la deuxième puissance économique de l'Union européenne et conserve malgré tout beaucoup d'atouts. Ça, c'est absolument indéniable. Un dernier mot avant de parler de ces chiffres donnés par Bruno Le Maire également sur le narcotrafic qui font froid dans le dos et que très franchement, certains détails que je n'avais jamais entendus. Un dernier mot là-dessus.
Oui, je serai très rapide. Effectivement, il faut diminuer les dépenses et pour diminuer les dépenses, il faut mettre à plat ce qu'on dépense et déterminer là où il y a des gaspillages. Et ça permet aussi d'assurer le consentement de l'impôt. Parce qu'effectivement, M. Dacier l'a dit aussi, c'est vrai que si aujourd'hui, les contribuables se voient comme des clients. Ils attendent un service. Donc si jamais ils n'ont pas de service, ils vont partir nécessairement. Donc ça pose problème. En réalité, ce qu'il faut faire aussi, c'est réformer les textes, réformer les normes. On a des normes qui sont beaucoup trop complexes, qui sont beaucoup trop loin du contribuable, beaucoup trop loin des administrés, qui sont difficiles à contrôler aussi. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc il y a tout un système à réformer ici.
Auditionné au Sénat aujourd'hui, autre sujet, le ministre de l'économie et des finances, décidément c'était sa journée, Bruno Le Maire, a jugé aujourd'hui que les menaces posées par le trafic de stupéfiants et le terrorisme étaient comparables dans leur intensité et appelle à une réponse intraitable du gouvernement. Écoutez un premier extrait de Bruno Le Maire, on en dit un petit mot avec vous monsieur le député et on continuera à vous faire entendre des extraits qui sont absolument édifiants. Écoutez Bruno Le Maire.
Non seulement les deux phénomènes de narcotrafic et de terrorisme sont comparables dans leur intensité et la menace qu'ils font peser sur la France, mais ils sont liés. Je confirme les liens financiers qui existent entre le terrorisme et les narcotrafiquants. Et nous disposons de tous les éléments pour confirmer ces liens qui peuvent exister entre le financement du terrorisme et les narcotrafiquants.
Et vous n'avez entendu vraiment que l'extrait le plus soft, j'ai envie de dire. On va entendre d'autres extraits de Bruno Le Maire qui sont vraiment, je le disais, édifiants. Et clairement, ce qu'on nous dit aujourd'hui autour du trafic de drogue, un système mafieux de plus en plus présent dans le pays, l'argent de la drogue est tel que notre démocratie est tout simplement en danger.
Oui. Et vous rappelez de Colomb, le ministre,
qui
part parce que...
Gérard Colomb. Le regretté Gérard Colomb.
Et aujourd'hui, Darmanin, le ministre Gérald Darmanin, avec ses opérations musclées, forcément, ça va, ça va bouger. Ça veut dire forcément, on va avoir, et vous allez pouvoir commenter, certainement des règlements de compte, etc. Et donc là, je pense que ce qu'a entrepris Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur...
Pardon, on n'a pas attendu Gérald Darmanin pour commenter les règlements de compte. Hein. Il y en a tous les jours.
Alors, non, dans les opérations qu'il a menées, qu'il est en train de mener sur les narcotrafiquants, puisque c'est le sujet, jamais aujourd'hui un ministre de l'Intérieur n'aura fait toutes les opérations qu'il a menées. Et là où vous avez raison, c'est là ce que dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire entre terrorisme et narcotrafiquants, si on met pas, on a laissé les quartiers. On a laissé les quartiers dans des zones de non-droit. On a organisé des grands frères qui allaient faire en sorte qu'il n'y avait plus de policiers dans les quartiers. C'est ça qu'on a fait. On a fait ça depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut être courageux. Et ce qui est assez nouveau, même pour nous parlementaires, qui n'avons pas toujours tous les chiffres, ce lien de corrélation direct que vient de dire Bruno Le Maire entre terrorisme et narcotrafiquants, là, pour le coup, ça va demander à ce que nous-mêmes, ce qu'ont fait les sénateurs, on le regarde de très près. Mais je pense qu'il y a une volonté du ministre de l'Intérieur d'aller se bagarrer contre les narcotrafiquants.
Un petit mot et on poursuit après le JT de Maureen Vidal. Laure Alice Bouvier.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire monsieur le député. Effectivement, il faut voir que la question du trafic de drogue, elle est particulièrement prégnante parce qu'il s'agit d'une contre-culture, il s'agit d'une économie parallèle contre laquelle c'est très difficile de lutter. On a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps l'exemple d'un jeune acteur, Dylan Robert, qui avait été oscarisé, je crois qu'il y avait un César, pardonnez-moi, et qui retombait quand même dans la drogue. Et c'est quand même, c'est très surprenant parce qu'on a ces systèmes de clans. En réalité, ce qu'il faut ici, c'est un système non seulement de coordination spatiale, temporelle et de coordination. C'est bien de faire des opérations XXL, mais il faut quand même que ces opérations elles soient suivies dans le temps. Et puis, je pense qu'on a besoin aussi de renforcer le renseignement, notamment les fichiers de sécurité nationale, les fichiers fiscaux. Le Code général des impôts, il n'a aucune morale. Il taxe non seulement la drogue, s'il le pouvait, mais aussi le proxénétisme, qui aussi finance le terrorisme, parce qu'il y a aussi ces choses-là. Et si jamais on croisait ces éléments-là, eh ben, peut-être que ça pourrait nous aider à trouver des éléments. C'est comme ça qu'on a réussi à faire tomber Al Capone.
On va, ouais. Bah, écoutez, on verra si les autres suivent. Comme on dit, Eric, on va avoir tous ces chiffres avec vous et entendre d'autres extraits de Bruno Le Maire qui nous raconte que des trafiquants, notamment, ont des sous-marins pour pouvoir procéder à leur trafic. Je vous dis, c'est du jamais entendu ce qui a été dit à la commission au Sénat aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le député Ramos, d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure. Je rappelle que vous êtes député Modem du Loiret. C'était un plaisir de vous entendre. Vous revenez quand vous voulez. 23h quasi. Maureen Vidal, l'essentiel. On se retrouve dans une minute et on poursuit cette discussion. Vous entendrez, je vous le disais, d'autres extraits de Bruno Le Maire.
Trois personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, cette jeune fille de 15 ans disparue mystérieusement en septembre dans le Bas-Rhin. Il s'agit d'un couple et d'un homme interpellés ce matin à son domicile. Les trois personnes vont notamment être auditionnées sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de Lina. 67 actes antisémites recensés dans les universités depuis le 7 octobre. Un bilan recueilli par les présidents des grandes écoles et publié par France Université. Un chiffre qui a doublé depuis l'année précédente. 33 actes antisémites avaient été recensés durant l'année 2022-2023. Enfin, les obsèques de Frédéric Mitterrand ont eu lieu cet après-midi à Paris, en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le neveu de François Mitterrand est décédé jeudi à l'âge de 76 ans. Plusieurs personnalités, dont la ministre de la Culture Rachida Dati, étaient présentes aujourd'hui. Il avait occupé cette fonction au cours de sa carrière.
Merci beaucoup, Maureen. Rendez-vous dans une trentaine de minutes. Éric Dériot-Mathen, je poursuis avec vous parce qu'il y a des chiffres, une économie gigantesque autour du trafic de drogue que Bruno Le Maire a donc chiffré pour la première fois. On a entendu des choses vraiment cet après-midi qu'on n'avait jamais entendues devant cette commission du Sénat. Quelques mots sur ce business de la drogue.
Oui. Et c'est extrêmement grave parce qu'avant tout, ça gangrène une société qui est en train de changer. Et ce qu'on apprend de la voix donc, de Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, la drogue qui a inondé le marché américain aujourd'hui ne peut plus conquérir ce marché qui est saturé. Et par conséquent, les narcotrafiquants se lancent dans la conquête du marché européen et la France devient le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Premier pays de consommation de cannabis.
5 millions.
Alors, vous avez aujourd'hui 5 millions de consommateurs, effectivement, c'est assez incroyable. Et en termes de chiffres, c'est la première fois vraiment qu'on connaît ce que ça représente comme chiffre d'affaires, entre 3 et 6 milliards d'euros, ce qui sûrement d'ailleurs est sous-évalué. Mais vous voyez, même la marge est assez large quand même, hein, entre 3 et 6, c'est pas très précis.
Et les moyens sont tels que des narcotrafiquants possèdent des sous-marins. Écoutez.
D'abord, les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des États. c'est une des grandes nouveautés. Ils ont un arsenal technologique, des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés, des balises, des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer. Ils ont accès à des téléphones cryptés qui leur permettent de communiquer sans aucune crainte d'être écoutés. Ils utilisent des méthodes de corruption des agents portuaires, de menaces contre le personnel politique, comme nous l'avons vu récemment aux Pays-Bas.
Éric, avec des trafiquants aux moyens impressionnants, et Bruno Le Maire, qu'on va réentendre dans une seconde, compare même au cartel sud-américain, la situation française.
Absolument, c'est vraiment le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est corrompu. Hein. Bruno Le Maire va convoquer les grands patrons qui exploitent des lignes maritimes de transport de fret. Il va voir dans les ports comment ça va se passer, puisque les ports de marchandises où il y a la corruption qui s'est installée. Et puis surtout, on sait où va cet argent. Bruno Le Maire a vraiment dit concrètement où ça allait, dans les bars à chicha, qui font des chiffres d'affaires monumentaux. On se demande pourquoi. Quand vous allez dans les ongleries pour vous faire limer les ongles, chiffre d'affaires monumental, l'argent de la drogue est là. Quand vous faites réparer votre voiture dans un garage douteux, pareil, il suffit de vérifier les chiffres d'affaires. Et puis aussi, bien sûr, les jeux d'argent en ligne qui se développent et les comptes en banque de néobanques. Vous savez, des cartes que l'on peut avoir sans aucun contrôle, où on recycle cet argent, qu'on blanchit cet argent. Et l'aveu final que l'État n'a pas assez de moyens. Donc voilà, on parlait tout à l'heure du budget de l'État et de la réduction des dépenses. Ben là, il en faudrait de l'argent pour lutter contre la drogue. Et on n'en a pas suffisamment.
On est véritablement dans la continuité de ce que nous disaient il y a quelques semaines ces magistrats marseillais qui nous expliquaient à quel point la bataille est perdue, semble être perdue selon eux, en tout cas, notamment à Marseille. La France cartélise, le mot est lancé par Bruno Le Maire encore une fois.
Nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national. Il faut donc agir vite, car bientôt il sera trop tard. Nous risquons donc, si les mesures nécessaires ne sont pas prises, de voir apparaître de nouveaux Medellin au cœur du continent européen.
Où va tout cet argent, pour conclure, Éric ?
Oui, tout cet argent, il va, donc, je vous le disais, par exemple, il y a aussi des officines où on achète des montres. Hein, vous savez, on parle souvent du trafic de montres, ces montres à 200 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Donc, si vous voulez, c'est une sorte... Le problème, c'est que moi, j'ai écouté cette commission d'enquête, et le président, qui est socialiste, un sénateur PS, Jérôme Durin, a dit à Bruno Le Maire, vous êtes alarmiste, mais vous prenez des mesures beaucoup trop tardives. C'est trop tard. C'est là où on est vraiment inquiet de voir la position de la France aujourd'hui, démunie, et qui se trouve face à ce cartel, comme on l'a connu à Medellin. Et comment va-t-on s'en sortir? Ça, c'est vraiment la question.
Va-t-on s'en sortir?
Est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis surtout, je vous le disais au début, ça gangrène cette jeunesse. Il y a aussi la cocaïne, je termine par là, qui bien sûr s'installe en France. Et puis, nouveau, c'est les drogues de synthèse. Oui. Qui ne valent rien, hein, c'est-à-dire que ça vaut 3 francs 6 sous, si je puis dire, et elles sont transformées à partir de produits chimiques, comme de l'ammoniac. Quand vous avez dans un port comme Le Havre, où des tonnes d'ammoniac ou des hectolitres d'ammoniac arrivent dans des bidons, personne ne peut savoir que dedans, ça permet de fabriquer de la drogue de synthèse.
Johan, je vais juste saluer Denis Trocero, qui est avec nous, journaliste post-justice, auteur de Règlement de compte à Marseille aux éditions Mareuil. Ce sera précieux d'entendre vos commentaires sur ce qui vient d'être dit, Denis Trocero. Juste un mot avec Johan Usaï, et je viens vers vous tout de suite.
En écoutant Bruno Le Maire parler à la fois des narcotrafiquants, parler à la fois de la dette, je me disais, en fait, on a l'impression d'avoir un gouvernement qui viendrait d'arriver aux responsabilités et qui dresserait le bilan de leurs prédécesseurs. Ils sont quand même là depuis 7 ans et ils dressent un constat, mais absolument dramatique, de la situation de la France, comme s'ils étaient finalement spectateurs de
cela. C'est presque comme le sujet précédent de la dette. Hein.
Mais c'est pour ça que je vous dis, en l'écoutant à la fois sur la dette et sur les narcotrafiquants, on a l'impression qu'ils sont spectateurs, qu'ils n'ont joué aucun rôle dans ce qui s'est passé durant les 7 dernières années. Or, quand Bruno Le Maire dit, concernant les narcotrafiquants, nous sommes arrivés à un tel stade que si nous n'agissons pas tout de suite, il sera trop tard, mais qu'ont-ils fait durant les 7 dernières années? C'est une question quand même qu'on est légitimement en droit de se poser. Manifestement, ils n'ont pas fait suffisamment puisque la situation n'a cessé de se dégrader au point où Éric l'a évoqué. On est arrivé à une situation où, dans des ports français, c'est notamment le port du Havre, et cela est tout à fait documenté. Les douaniers, maintenant, sont corrompus. Une partie d'entre eux, en tout cas.
Les dockers,
sont corrompus pour laisser entrer des containers chargés de drogue. Alors, ils sont corrompus. Parfois, ils l'acceptent volontairement par rapport à du gain. Et parfois, ils sont contraints parce qu'ils sont menacés de mort par les trafiquants, etc. Donc,
certains dealers, d'ailleurs, qui sont parfois sous la coupe
Il est évident que nous sommes dans une situation catastrophique, mais que ce gouvernement n'est pas spectateur, comme voudrait le faire croire Bruno Le Maire, mais qu'il a une responsabilité quand même dans ce qui s'est passé depuis des années.
Denis Trocero, merci d'avoir patienté. Je rappelle, donc journaliste pour les justices, auteur de ce bouquin « Règlement de compte à Marseille » aux éditions Mareuil, ce qui est décrit, bah, c'est pas la France. En effet, Bruno Le Maire l'a bien décrit. Ça ressemble à des méthodes de cartel sud-américain. La question que je me pose en évoquant ces trafiquants, mais en fait, c'est oui, la bataille est perdue parce qu'ils ont déjà beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de pouvoir. Je pense à cette histoire de sous-marins. C'est complètement fou des moyens d'État, comme l'a rappelé là encore le ministre de l'Économie.
Tout à fait. Ce qui est un peu étonnant quand même, c'est qu'on a l'impression que nos politiques découvrent aujourd'hui ce qui se passe dans un certain nombre de cités, notamment à Marseille. Il aura fallu que 4 magistrats marseillais, 2 magistrats du parquet, 2 magistrats du siège dressent ce constat très alarmant pour que la commission sénatoriale et la France tout entière prennent la mesure de la réalité du trafic. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas, moi, dans l'analyse et l'étude que j'ai faite sur Marseille et que je viens de publier, c'est que, comme vous le dites, les chiffres sont assez inquiétants. Sachez par exemple que un point de deal sur Marseille peut, notamment sur la cité La Castellane qui a été ciblée par le ministre de l'Intérieur et dans laquelle s'est rendu le président de la République la semaine dernière, elle peut rapporter, les 5 ou 6 points de deal peuvent rapporter chacun jusqu'à 80 000 euros par jour. Un gérant de ce point de deal, il peut se faire à peu près 8 000 euros par mois. Une tête de réseau, c'est-à-dire qui est au-dessus de tout ça et qui commande souvent le trafic, quand ce n'est pas de la prison, c'est de Dubaï ou des pays du Maghreb, une tête de réseau peut gagner jusqu'à 150 000 euros par mois. Donc, et tout ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on le découvre un peu tardivement. De même qu'on a l'air aussi de découvrir que, comme vous le disiez tout à l'heure, des équipes viennent de pays étrangers et ont investi ces cités pour fabriquer cette espèce de machine à cash. Il faut quand même se souvenir qu'en février 2015, déjà, dans la même cité La Castellane à Marseille, il y avait un commando de Kosovars et d'Albanais qui avait tenté un coup de force pour prendre le trafic et qu'ils étaient allés jusqu'à tirer sur les forces de police qui se rendaient sur place à ce moment-là. Donc on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps quand même.
Denis Trocero, je voudrais que vous entendiez un dernier extrait avec nous de Bruno Le Maire qui évoque une idée, celle d'appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'aux terroristes. Écoutez.
L'idée est de s'inspirer de la jurisprudence sur les terroristes qui fonctionne très bien. Le niveau de menace pour moi est similaire. Il demande la même détermination et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narcotrafiquants. C'est ma position de ministre de l'économie et des finances. Je connais les réticences de certains sur les libertés publiques, je peux les entendre, mais pour moi, il faut appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'au terrorisme. Savoir s'affranchir de certaines libertés publiques pour protéger la liberté collective de nos compatriotes face à cette menace.
Commentaire de Trocero, une loi d'exception, remettre en cause d'une certaine façon l'état de droit, sans quoi rien ne pourra être fait pour lutter.
Tout à fait, je crois que c'est une bonne
piste. C'est assez courageux ce qu'il dit Bruno Le Maire. Hein.
Oui, non, tout à fait, mais c'est aussi ce que propose par exemple le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, qui, il y a quelques semaines encore, avant même de parler devant la commission d'enquête parlementaire, disait qu'il fallait changer la loi. Alors moi, dans mon bouquin, je propose de criminaliser le trafic de drogue, ce qui existe déjà, mais uniquement pour l'importation en bande organisée. Le procureur de Marseille, lui, a parlé de notamment créer des juger exclusivement les trafiquants de drogue, comme les terroristes, comme vous le dites, par des magistrats professionnels, les juger éventuellement aux assises, faire des régimes de détention dans lesquels ils ne peuvent plus communiquer entre eux, ils ne peuvent plus organiser le réseau depuis l'intérieur, depuis l'enceinte de la prison. Vous voyez des initiatives. Et surtout, je crois, une mesure intéressante qu'ont proposé certains, qui serait de... Et même un ancien de la French Connection qui a été entendu, Émile Diaz, qui a été entendu par la commission sénatoriale, l'a proposé il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire faire en sorte que... On révise la loi sur les repentis, la coller sur celle qui existe aux États-Unis pour faire en sorte que les trafiquants, une fois interpellés, parlent plus facilement, ce qui permettrait de libérer la parole mais aussi de remonter les réseaux beaucoup plus facilement.
Merci Denis Trocero pour votre expertise. Arthur de Vatrigan, un commentaire. Le jour où la justice, parce qu'il est là le nerf de la guerre, hein, n'en doutons pas, et les propos de Bruno Le Maire sur cette jurisprudence qu'il veut appliquer aux narcotrafiquants, c'est vrai qu'on se dit que le jour où la justice frappera fort, on verra peut-être un début de fin du bout du tunnel.
Je ne sais pas si la justice peut suffisamment frapper fort pour empêcher des jeunes dealers qui prennent des dispositions testamentaires parce qu'ils connaissent le risque encouru. Et qu'à partir du moment où la mort est acceptée, parce qu'ils savent qu'ils vont palper des milliers, des centaines de milliers d'euros, de passer devant un juge, faire un peu de prison, à mon avis, ils s'en foutent. Après, on sait que la spécialité de la Macronie, c'est la métamorphose et le mouvement perpétuel, on saute d'un sujet à un autre. Et là, le sujet est là, parce qu'il y a eu des tirs de Kalachnikov dans des villes, dans les centres-villes. Sauf que là, ils nous prennent un peu pour des buses, parce qu'ils savent très bien... le volume financier de la drogue, parce qu'ils l'ont inclus dans le PIB depuis 2 ans déjà. Ensuite, ils savent très bien le volume de transactions, parce qu'ils ont, en Guyane par exemple, le parquet expérimenté quelque chose, parce qu'au niveau de l'embouteillage juridique, ça ne marchait pas. Ils ont demandé que ne soient pas poursuivies les saisies inférieures à 1,5 kg de cocaïne. Donc ils savent très bien ce que ça signifie. Ensuite, sur le lien islamisme et trafic de drogue, nous, grand public, depuis 2012 et les mondes Mera, on sait ce lien-là. Parce que Mera faisait des gofas pour un réseau de pecs salafistes. Et c'est ce réseau-là qui, ensuite, à sa sortie de prison, l'a pris, l'a emmené en Syrie chez les talibans.
Donc on sait officiellement.
Mais d'accord, mais Mera, c'était en 2012, c'était il y a 12 ans. Ouais. Là, ils nous prennent vraiment pour des buses, en fait. C'est ça qui est effrayant.
Laure-Alice Bouvier.
Oui, je voudrais rebondir sur 3 points. D'abord, je voudrais rassurer Eric, l'onglerie dans laquelle je me rends, je suis leur avocate, ils ne font pas de blanchiment, je peux vous l'assurer, c'est moi qui m'occupe personnellement d'elle. Ça, c'était le premier point. Second point, je rejoins ce qu'a dit Johan Hussay également, c'est qu'on a effectivement l'impression que ce gouvernement, il arrive et il n'y a aucune coordination. Macron arrive en sauveur autoproclamé à Marseille en disant « on va faire une opération XXL de 3 semaines ». Bon, mais en réalité, c'est oublié quand même que la drogue, ça gangrène aussi les petites communes. On a Uber Sheet, on a quand même beaucoup de problèmes qui se posent.
Tous les maires interrogés sur leur ville, qu'ils soient de droite, de gauche, dénoncent l'explosion des trafics, l'avalanche de la drogue, l'hyperviolence qui l'accompagne.
Voilà, et le gouvernement ne s'en est jamais préoccupé. Il n'y a jamais eu de coordination au niveau national, départemental, régional, etc. Troisième point, sur la question de la juridiction et sur la question de traiter les dealers comme des terroristes. Alors, effectivement, ce ne serait pas une mauvaise idée de mettre une juridiction spécialisée dans le domaine. Après, je m'interroge sur la faisabilité d'une telle chose, parce que si on se met à mettre tous les petits maillons, en fait, il y a quand même beaucoup de jeunes aussi, il y a le code de la justice pénale des mineurs, on a des procédures qui sont beaucoup trop compliquées. Et moi, je le vois en tant que praticienne, on a des procédures qu'il faut simplifier. On a des vices de procédure qui font qu'on a des dealers qui vont sortir directement de garde à vue.
Avec des avocats qui sont payés spécialement pour ça et qui connaissent parfaitement...
Tout à fait. On a des problèmes au niveau des géolocalisations aussi qui peuvent causer des vices de procédure. Donc il faudrait simplifier tout ça. Et l'idée de créer...
Modifier les dates de droit, c'est la seule solution.
Oui.
Pas en sortir, hein,
oui.
Mais le changer.
Le changer, tout à fait. Et l'idée de créer une juridiction spécialisée, je pense qu'elle est bonne, mais qu'elle est, elle est aussi ambitieuse. Parce qu'il faudra voir, est-ce qu'on va traiter tout le monde à la même enseigne? Est-ce qu'on va s'occuper uniquement que des dealers qui font un certain chiffre d'affaires, si je puis dire? Est-ce qu'on va aussi s'occuper des guetteurs, etc. Des mineurs de 13 ans qui participent aussi au trafic? Toute la question, en réalité.
Qui sont souvent des mineurs isolés, donc oui. L'immigration a aussi un rôle.
Évidemment. Et qui sont un peu esclaves aussi de ces gangs et de ces mafias.
Qui sont exploités.
Donc on ne peut pas les envoyer aux assises comme on enverrait n'importe un dealer important, par exemple.
Vous avez aperçu à l'écran depuis quelques minutes Amaury Bucco. Je vous demande pardon, Amaury, parce que je n'ai pas pensé à vous présenter il y a quelques minutes. Merci de nous avoir rejoints donc, pour la police-justice. Il y a ces opérations PlaceNet également, dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, parce qu'elles se multiplient. Cette PlaceNet XXL qui continue, travaille de longue haleine, très énergivore pour les forces de l'ordre. On dit que les dealers rient de ces opérations PlaceNet parce que la tête repousse aussi vite qu'elle a été coupée. Et ce qu'on attend, c'est surtout la suite des opérations PlaceNet, la réponse que rend la justice sur les interpellés. Et sur ça, on ne sait pas grand-chose, en fait.
Justement, alors je me suis entretenu tout à l'heure avec un procureur de la République pour essayer de comprendre. Et ce qu'il m'a expliqué était assez intéressant. En fait, si vous voulez, quand la police frappe fort, c'est-à-dire qu'on interpelle beaucoup de personnes... Du côté des parquets, on essaye de les envoyer en comparution immédiate, ce qui est quand même la chose la plus sévère qu'on puisse faire devant le tribunal correctionnel pour qu'il y ait une réponse très rapide de la justice. Mais une fois qu'ils sont devant les juges, les peines sont assez sévères. Non pas, si vous voulez, parce que d'ailleurs les juges sont spécialement laxistes envers le trafic de drogue, mais parce que ces opérations place nette, tout simplement, on interpelle les petites mains en flagrant délit. Oui. Donc ce n'est pas des enquêtes très profondes, c'est des enquêtes de flagrant délit.
Quelques saisies aussi.
Exactement, mais c'est vraiment des petites mains. Donc les peines, si vous voulez, forcément ne suivent pas de ce côté-là. En revanche, c'est quand même un point très important, je pense, positif sur les opérations place nette, c'est vraiment pour les habitants. Je pense que, Julien, vous avez en tête tous ces témoignages d'habitants qu'on a souvent, on s'est fait l'écho ici sur CNews.
Et tous ces pauvres innocents qui prennent des balles perdues également.
Qui disent, en fait, ça fait 10 fois que j'appelle la police parce qu'il y a des dealers dans ma cage d'escalier, il ne se passe rien. Ou alors la police vient une fois et ils reviennent. Et là, ils ont l'impression, si vous voulez, alors effectivement, ça ne dure que quelques jours, mais ils ont l'impression que pour une fois, ils sont entendus, que les forces de l'ordre reviennent en force et chassent ces personnes-là. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, ce qui est important, et c'est l'objectif des places nettes, c'est qu'en fait, au départ, il faut qu'il y ait une opération de police judiciaire, de travail de fond, et que derrière, en général, c'est ce qu'on fait, on envoie les forces de l'ordre pendant 2-3 jours sur ces endroits pour occuper le terrain. Et l'ennui, la dérive qu'il peut y avoir, c'est ce que me disait un policier, c'est qu'on ne fait plus cette opération de police judiciaire de fond, mais on fait seulement des petites opérations d'occupation de terrain pour faire de la communication, mais qui ne servent à rien, en fait.
Ce qui est sûr, c'est que depuis 40 ans, tout ce qui est fait ou a été fait ne fonctionne pas et qu'il faudrait peut-être changer de logiciel. Un tout dernier mot.
Oui, je reviens très rapidement sur ce que vient de dire Amaury, sur les comparutions immédiates. Ouais. Pour en faire beaucoup, je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux questions des trafics de stupéfiants parce qu'elles commencent généralement très tôt, elles finissent très tard, les magistrats sont débordés de dossiers, n'ont pas le temps de regarder les dossiers. Et en réalité.
Et on revient au premier sujet, où va l'argent des Français ?
Tout à fait, exactement. Et certainement pas la justice.
Est-ce qu'on y arrivera au bout un jour ? On n'en est pas sûr.
Si on s'y met, oui. Ça,
oui, mais encore faut-il
ça s'y va
mettre.
Demander du temps.
Quel pays a réussi ?
Vous dites ?
Quel pays a réussi à arrêter et gérer le trafic de drogue ?
Mais malheureusement, moi, j'ai entendu les magistrats marseillais et je me dis que.
Il y a une question.
S'il y a des gens qui détiennent la vérité sur ce dossier, c'est certainement eux et ils ne disent que la bataille est perdue.
Le combat sera sans doute quasi éternel, mais on peut marquer un certain nombre de points. Moi, il y a une question que je continue de me poser, sans avoir de réponse d'ailleurs. C'est le problème des consommateurs. On a une attitude vis-à-vis de la consommation de drogue qui est importante. On est le premier pays, semble-t-il.
Premier en Europe.
Qui est, je dirais pas bienveillante. Enfin, une amende de 135 ou de 150 euros qui est payée une fois sur cinq, et je suis pas sûr que ça. Mais ça soit à la hauteur
des nous sommes aussi, Jean-Claude, le pays où nous consommons le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs.
Oui, ça révèle
tout cela manifestement.
Là, parce que
lien.
Ça nous déprime d'entendre tout ça. Là, on sait l'autre.
Tout ça, il suffit d'aller à la pharmacie et puis on repart avec un
J'entends bien, mais ça interroge sur la santé mentale des Français, l'anxiété des Français, sur les raisons qui les poussent à consommer à la fois des stupéfiants et aussi tous ces produits légaux.
Transition toute trouvée. Notre santé mentale peut être affectée par l'information que je vais vous donner. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, on en a parlé quelques secondes avec le député Ramos qui nous accompagnait, alors que le gouvernement alerte ces derniers jours d'ailleurs sur cette menace terroriste plus que jamais présente sur le territoire. Cette info qui vient nous rappeler à quel point nous sommes parfois faibles face à la menace islamiste. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris dans le 20e arrondissement qui a été menacé de mort sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines après avoir demandé à une élève d'enlever son voile, eh bien on a appris aujourd'hui qu'il a quitté ses fonctions. Selon un message adressé aux parents d'élèves, enseignants et membres du conseil d'administration, le proviseur a quitté ses fonction pour des raisons de sécurité, ce que n'a toutefois pas confirmé le rectorat qui invoque, lui, des convenances personnelles. Yael Benhamou nous en dit plus et on en discute.
Il se voulait garant de la laïcité au sein de son établissement, mais pour sa sécurité, il quitte ses fonctions. Il y a un mois, le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris demande à une étudiante en BTS d'ôter son voile islamique. L'histoire est diffusée sur les réseaux sociaux. Il reçoit alors des menaces de mort.
Il faut prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Nous sommes inquiets pour la sécurité de notre collègue dont le seul crime, en fait, serait simplement d'avoir fait son métier et d'appliquer la loi.
Selon un message adressé aux parents et enseignants, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat parle de convenance personnelle.
Ça donne clairement une impression de minimiser les choses. Ça ne rend pas hommage au courage et au travail de ce chef d'établissement.
Un jeune homme de 26 ans a été interpellé dans cette affaire. Il doit être jugé le 23 avril à Paris pour menace de mort sur Internet.
Incroyable inversion des valeurs, Jean-Claude Dacier. Il est menacé de mort et donc contraint de quitter ses fonctions. Bienvenue en France en 2024.
Et s'il y a un service public qui devrait être la priorité des priorités, avec tous les ennuis qui s'y déroulent, il n'y a pas seulement un proviseur qui est menacé, il y a des professeurs qui sont exécutés, et puis il y a surtout beaucoup de profs au quotidien qui ont beaucoup de mal, pas partout, heureusement pas partout, à faire des cours normaux et qui s'auto-censurent parfois. Bref, l'école publique va moyennement bien, et je choisis les termes les plus modestes qui soient. Le privé a l'air d'aller mieux. Je suis pas un expert de la question, donc je ne dis rien. Mais en tout cas,
dans le privé, les proviseurs rencontrent les parents avant de les,
semble-t-il,
les prendre dans l'école. Donc
là encore, il y a déjà un contact qui est établi. Le service public de l'éducation nationale s'est semble-t-il fourvoyé. Je ne reviens pas sur l'épisode des pédagogistes qui ont fourvoyé notamment les enfants pendant des années et des années.
Là, c'est autre chose quand même.
Là, c'est autre chose, mais quelque part, il y avait un état d'esprit.
Le pas de vague, toujours en place.
Qui faisait que l'enfant était roi et que c'était lui, en gros, qui devenait le patron de ce qu'il avait à faire.
Là, on est sur l'entrisme islamiste, Jean-Claude. C'est
oui,
une tentative d'entrisme qui se multiplie. C'est davantage ça, le problème.
On est sur le phénomène d'immigration hors de contrôle qui fait qu'il y a une toute partie, importante ou pas, je n'en sais rien, qui, avec les enfants de l'immigration, sont dans les classes intenables, exigent qu'on y enseigne ce qu'ils souhaitent,
qui combattent la laïcité,
On s'interroge maintenant sur l'avenir et les chances de victoire de la laïcité. Donc la situation est d'une gravité exceptionnelle. Je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on ait un gouvernement qui ait, là encore, pris la mesure de la gravité de la situation.
Non, mais le délitement est assez dingue. Je vais vous confier une petite chose qui intéresse pas grand monde, mais pour vous dire à quel point je ressens ce délitement. J'ai fait toute ma scolarité dans ce lycée, donc je le connais très bien. C'était un lycée parfaitement tenu, eh oui. J'ai jamais eu aucun problème, et j'étais assez sidéré d'entendre de cette affaire et de constater donc que Arthur de Vatrigan, les victimes ne sont pas protégées. Cet homme démissionne pour survivre et à l'arrivée, c'est la victoire des islamistes, c'est la victoire bien sûr. Cette jeune fille qui a voulu donc entrer malgré la loi avec son voile dans ce lycée. Arthur de Vatrigan.
Il faut bien comprendre, c'est que dans le dispositif islamiste, l'école joue un rôle aussi fondamental que dans la philosophie républicaine. Dans la philosophie républicaine, c'est là qu'on doit, l'école doit permettre à des enfants de devenir français. Dans l'idéologie islamiste, c'est l'endroit où on justement doit empêcher les enfants de devenir français. En 2004, on a voté la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école au nom des principes laïcité. On est 20 ans après, il n'y a pas une semaine sans que l'école soit attaquée par des offensives islamistes. Mais en fait, le problème, malheureusement, il est dès le départ, c'est que c'est ni une question de religion, ni une question de laïcité.
C'est une question de quoi ?
La France, elle n'a pas un problème avec une religion, parce que déjà une religion, ça ne veut rien dire, sauf si vous arrivez à me trouver un point commun entre l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le protestantisme, les religions indiennes. Voilà. Ça ne veut strictement rien dire, sinon être une capote pour empêcher un intellectuel ou un journaliste de se prendre un procès en discrimination. L'islam, c'est une religion, si on veut, au sens de dogme, très bien, mais c'est une loi, des mœurs, des coutumes, une histoire. Ça s'appelle une civilisation. Et une civilisation qui, sur beaucoup de principes, s'oppose à notre civilisation. Or, sur aucun territoire dans l'histoire du monde, deux civilisations coexistaient longtemps sur le même sol. Ça, c'est une réalité. Ensuite, c'est pas un problème de laïcité, parce que la laïcité, c'est ni un outil, ni une arme. L'État est laïque, parce que la société n'est pas laïque. Et c'est méconnaître la laïcité et son histoire de vouloir dire, avec la laïcité, on va régler le problème de l'islam. La laïcité, elle a été faite à la mesure du christianisme. Voilà. Et si ça a été très violent en 1905, faut jamais oublier que ça creuse un fossé entre deux camps, les laïcars et les catholiques.
Mais pardon, ça veut dire qu'il faut considérer que l'islam n'est pas compatible avec la république telle que nous la connaissons.
C'est la question qu'il faut se poser, parce que la laïcité, je termine, s'est réconciliée sous fond de grande guerre. C'est-à-dire que les laïcars et les catholiques sont
fait moderne
déverrouiller.
Toute religion, quand elle est modérée, est compatible avec
Pourquoi c'est compatible? Pourquoi c'était compatible la laïcité? Parce que la France était chrétienne. C'est-à-dire que le temporel et spirituel, c'est pas la République qui l'a inventé. La séparation de l'Église et l'État, ça existait déjà avant. Ils ont mis fin à une coopération entre les deux. Donc déjà, il faut arrêter de se mentir. Ensuite, il y a eu la Grande Guerre qui est passée par là, qui fait que les deux camps se sont réconciliés sous fond de patriotisme. S'il y a une guerre aujourd'hui, je suis pas certain que ceux qui sont contre la loi de 2004 vont se faire flinguer dans les mêmes tranchées que de ceux qui sont pour la loi de 2004.
Mais je suis pas sûr que ceux qui sont pour la loi de 2004 aient la volonté non plus de mourir.
Non, j'ai un gros doute là-dessus. Donc le problème, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette religion, en tant que telle, qui je rappelle est une religion du livre, d'un livre incréé, est-elle compatible aujourd'hui avec notre civilisation ? La question, elle n'est pas légale, elle n'est pas juridique, elle est culturelle. Mmh. Elle est uniquement culturelle, or une loi triomphe jamais d'un état social
concret. Mais en attendant, au-delà de ces considérations qui sont...
C'est une question de nom. Si vous avez 80% d'enfants issus de l'immigration qui sont musulmans et qui pratiquent leur foi avec 2-3 meneurs qui vont leur demander d'aller plus loin, jamais la minorité, qu'elle soit juridique, légale, qu'elle ait la tutelle,
va
pouvoir leur imposer.
Mais là, argumentation, c'est que sur les premières générations, il n'y avait pas ces problèmes-là.
C'était une question de nombre.
Il n'y avait pas ces problèmes-là.
C'était pas aussi nombreux.
Moins de monde.
C'est une question de nombre. Mais non, c'est une question de nombre.
Allez, on fait un petit tour. Il nous reste 2 minutes 30 pour vous entendre les uns et les autres. Laure Alice Bouvier, Amaury Bucco et Yohann Uzaï.
Oui, alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que on parle de l'école, mais c'est symptomatique en réalité d'une déconstruction de l'État. Ce qui est attaqué, c'est tous les piliers de l'État. La police, la justice, l'école, la santé. Bref, tout ce qui fait notre État et tout ce qui fait nos piliers de l'État. Donc en fait, on a quand même une globalité qui est attaquée ici.
Mais vous rendez compte, juste, il faudrait qu'on reste, parce que c'est très intéressant, on est sur le fond du sujet et c'est passionnant, mais je voudrais vraiment qu'on reste en surface un instant pour lire ce qui est écrit en bas de notre écran. Cet homme a été menacé de mort et c'est lui qui quitte de ses fonctions, c'est la
et
victime.
C'est inadmissible.
C'est la victime
c'est
de cette affaire.
Puisque l'école
Quelle
doit être, au contraire, le pilier, ça fait partie des dépenses d'avenir. J'aimerais rebondir sur un point qu'a dit monsieur le député tout à l'heure qui était à ma gauche. Il a évoqué une menace qui venait de l'extérieur. Mmh. Il ne pense pas à une menace qui vient de l'intérieur. Il faut quand même rappeler, on se rappelle de ce petit garçon de 8 ans qui, lors de la minute de silence pour Charlie Hebdo, a dit « Moi, je ne fais pas la minute de silence, je suis avec les terroristes. Mmh. » En Grande-Bretagne, dès l'école primaire, on demande aux écoles de... dire s'il y a des enfants qui sont radicalisés. Parce que le problème aussi, il vient de l'intérieur Bien des sûr. Écoles. Donc c'est aussi un point qui est important.
Amaury et Yohann.
Oui, non, mais vous disiez, avant effectivement, ce qu'on lit, moi, je me souviens très bien d'avoir fait un long reportage sur Didier Lemaire, l'affaire Didier Lemaire, qui était à Trappes il y a quelques années. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ça va s'étendre à d'autres écoles. Bah, là, on est dans le 20e arrondissement, qui n'est quand même pas la même sociologie que Trappes. Et donc, petit à petit, ça va s'étendre, a priori, à tout le territoire. Mais moi, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Arthur de Vatrigan, ce qui est intéressant. C'est que je ne sais pas si on peut parler d'islamisme. Je ne crois pas que ces jeunes filles qui étaient venues avec leur voile, elles soient islamistes. Je ne crois pas que les gens qui aient menacé forcément ce directeur soient islamistes. Ils n'ont pas forcément un projet politique de l'islam. En revanche, je pense qu'on
peut... Non, mais ne crois plus au récit national.
Non,
en tout
mais
cas.
C'est un islam identitaire, communautaire, si vous voulez, qui veut imposer, pas parce qu'ils estiment qu'ils sont musulmans et très nombreux sur le territoire, qui veut imposer leurs mœurs, leurs traditions, etc. Et c'est là où je rejoins Arthur Vatrigan. C'est plus un problème démographique et culturel qu'un problème politique. Voilà, et je pense que le terme d'islamisme n'est pas approprié quand on parle de ce genre de phénomène. C'est vraiment un phénomène culturel, communautaire, identitaire de l'islam, avec une partie de l'extrême gauche qui les soutient et qui veut que l'islam s'impose comme une identité en France.
Dernier mot.
L'entrisme islamiste passe aussi par le fait d'inciter des jeunes filles à porter le voile et à aller tester les limites de la République dans les établissements scolaires. Les islamistes savent très bien faire ça. Ils les manipulent sur les réseaux sociaux, notamment financés à grands frais par des pays ennemis de la France, comme la Turquie et M. Erdogan, par exemple, qui financent directement les frères musulmans, qui eux-mêmes vont embrigader ces jeunes filles sur les réseaux sociaux. Quand on a dit cela, on peut aussi dire quand même que le gouvernement et l'État a été lamentable dans cette histoire, parce que quand même, le rôle de l'État et des gouvernements, du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de dire « ils ne passeront pas, nous ne laisserons pas tomber, nous n'abandonnerons pas les professeurs, nous ne lâcherons rien », eh bien là, ils l'ont lâché en race campagne, ce proviseur qui n'a pas été protégé et qui a donc dû démissionner.
C'est une honte.
Une dernière chose, quand même, pour rebondir sur ce que disait Arthur de Vatrigan, moi, je considère que c'est de l'entrisme islamiste et qu'il ne faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier, parce que, heureusement, quand même, beaucoup de musulmans dans ce pays vivent convenablement, adhèrent aux valeurs de la République et sont tout à fait heureux de vivre dans ce pays. Mais il y a une minorité, effectivement, qui pose un véritable problème à notre pays, un problème qui est de plus en plus grand et qu'il va falloir résoudre de toute urgence, parce qu'il est évident que sinon, comme le disait Gérard Collomb, nous ne vivrons plus côte à côte, mais face à face.
Et la menace islamiste, elle couve, elle n'a jamais cessé de couver, comme l'a rappelé le Premier ministre, qu'on nous entendrons dans une minute, juste après le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
Et vous venez de l'entendre, le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris quitte ses fonctions. Il évoque des raisons de sécurité. Le rectorat ne s'est pas exprimé sur cette question. Il avait été menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève il y a un mois. Il lui avait demandé d'enlever son voile. Ce drame aux États-Unis, d'importantes opérations de secours se déroulent dans le port de Baltimore suite à l'effondrement du pont Francis Scott Key dans la nuit de lundi à mardi. Objectif, essayer de retrouver des survivants après l'effondrement spectaculaire d'un grand pont autoroutier percuté par un porte-conteneur. En football, l'équipe de France s'est timidement imposée face au Chili en match amical. Les Bleus ont très rapidement concédé l'ouverture du score sur un but de Marcelo Núñez. Les tricolores vont ensuite rapidement réagir. Fofana égalise sur une jolie frappe et Kolo Muani donne l'avantage aux siens. Au retour des vestiaires, Olivier Giroud donne de l'air aux Bleus. En fin de match, le Chili finira par réduire la marque. Score final 3-2 au Vélodrome. La France se rassure dans la douleur après sa défaite face à l'Allemagne.
Et voilà pour cette belle victoire de l'équipe de France qui se rattrape après cette déroute face aux Allemands le week-end dernier. Ça fait plaisir à Yoann Uzaï, évidemment, qui m'accompagne. Voilà. Et la Pologne est qualifiée pour l'Euro, me dit Martin Mazur, qui nous parle de son équipe de cœur. Je ne vais pas trahir un grand monde à ce sujet. La surveillance est renforcée en France face à la menace terroriste. Le gouvernement a donc rehaussé, on en parlait hier, le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Gabriel Attal est revenu aujourd'hui sur cette menace islamiste qui couve face aux députés, Yoann Uzaï.
Oui, nous devons nous préparer à tous les scénarios, n'en écarter aucun. Voilà ce qu'a confirmé aujourd'hui Gabriel Attal lors des questions au gouvernement. On l'écoute.
La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons pas, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser.
Alors il y a effectivement des avancées, le mal est désormais nommé sans ambiguïté, il s'agit de l'islamisme. La dernière loi immigration, bien que très insuffisante, permet effectivement d'expulser un peu plus facilement les personnes indésirables sur le sol français. Le discours de Gabriel Attal est presque martial et c'est une bonne chose, mais il dit que nous ne laisserons jamais à l'islamisme une seconde de répit. Et c'est sur ce point précisément qu'il ne dit pas la vérité, car l'islamisme prospère dans notre pays depuis de nombreuses années. Et puisque l'immigration illégale est incontrôlée, puisque les OQTF ne sont que très rarement appliquées, puisque près de 200 détenus condamnés pour terrorisme islamiste vont être libérés d'ici 2027, on peut affirmer que même si les choses vont dans le bon sens, l'islamisme aura encore un peu de répit dans notre pays. La menace est donc sérieuse, elle plane plus que jamais sur les Jeux Olympiques et malgré cela, eh bien, le gouvernement est L'opposition estime que le gouvernement surjoue la dramatisation à des fins politiques. Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.
Je pense que le gouvernement fait des choses totalement incohérentes. On ne peut pas à la fois dire aux Français que la menace elle est au maximum, surjouer comme toujours cette gravité. Évidemment que la menace terroriste, elle existe. La menace islamique, elle est là. Je ne suis pas sûr qu'il faille en parler matin, midi et soir. Pour protéger les Français. Le gouvernement aime la communication anxiogène, vit de ces tensions qu'il crée en permanence dans le pays. Et surtout, l'incohérence, c'est par rapport à ce qui se prépare sur les Jeux Olympiques. On se prépare à accueillir, on voulait accueillir 600 000 personnes sur les bords de la Seine pour une cérémonie d'ouverture, avec tous des balcons qui seraient ouverts, des espaces extrêmement difficiles à contrôler. Donc, elle est où la cohérence dans tout ça ?
Le gouvernement surjoue la menace, comme le prétend Olivier Marleix.
La menace est réelle, on s'est peut-être trop habitué à ça, c'est évident, sans compter tous les Français de Syrie qui étaient à Daesh, on avait fait une enquête dessus, c'était comme la langue la plus parlée en Syrie, il y avait même un journal en français, et on a annoncé entre 1 000 et 3 000, nous nos sources disent plutôt 10 000, donc on peut s'inquiéter de ça évidemment. Après il y a quelque chose qui est un jugement complètement subjectif, j'ai quand même l'impression que le gouvernement s'épanouit un peu perfidement dans les crises, que ce soit des crises sanitaires, des crises géopolitiques ou même des crises de terrorisme pas, hein. En France. Mais je crois qu'il a parfaitement compris que notre société moderne s'articulait autour de la santé et du bien-être et qu'au nom de la santé et du bien-être, les Français étaient capables d'oublier beaucoup de choses et de se soumettre à beaucoup de choses. Et quand on a un narcissisme autoritaire assez naturel, on peut jouer là-dessus et ça permet de dominer plus facilement.
Certes, mais ça se voit pas trop quand même dans les sondages. Et pour l'instant, je pense que c'est pas un hasard si on a les déclarations que nous avons, parce que les Républicains sont loin derrière la liste qui est en tête. Ouais. On va voir quels seront les résultats des européennes. Je pense que pour l'instant, toutes les déclarations qu'on entend, ici ou là, sont, j'irais pas biaisées, mais contraintes par cette proximité des européennes, et certains partis sont mal, quand même.
Mais vous avez aussi les déclarations de l'exécutif qui prononce toujours les mêmes mots.
L'exécutif, le président de la République.
Le président de la République,
il est à 28.
Les chiffres, la même menace plane sur la société.
Le président de la République est à 28. Il est convaincu qu'il y a Marine Le Pen qui se profile et qui menace pour 2027. Donc il surjoue peut-être, en effet, la menace des extrémismes et de tous les dangers que ça peut représenter. On aura le temps d'en reparler. En attendant, il y a les européennes qui viennent et on va voir quels seront les résultats.
Si c'était le cas, ça ne serait pas une bonne stratégie parce qu'effectivement, dramatiser la situation vis-à-vis du terrorisme islamiste pour faire en sorte que Marine Le Pen n'augmente pas dans les sondages, si c'était
non,
le cas,
non, mais voir dans les mêmes 24 heures, alors Alice Bouvier, avoir cette affaire du lycée Maurice Ravel avec un proviseur qui visiblement n'est pas protégé et qui démissionne face aux menaces de mort alors qu'il devrait être renforcé, protégé, aidé par l'État. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on assiste surtout à des formes de capitulation. Je vais prendre que l'exemple des fichiers S qui représentent une menace réelle et qui sont impossibles à expulser. C'est ça la responsabilité du gouvernement aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et il y a une vraie carence là-dedans parce que là, le gouvernement, encore une fois, arrive en sauveur en disant on va renforcer le plan urgence attentat. Alors évidemment, on a la question des JO, on a le contexte international qui est quand même très particulier, on a le JO bashing. Bon, on est dans un contexte qui est un contexte particulièrement danger, particulièrement d'inquiétude et d'incertitude. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi la question des européennes, ce qui est vrai aussi. Oui. Et si jamais elle est utilisée à des fins politiques, c'est éminemment condamnable.
C'est impensable.
Voilà.
C'est impensable d'arriver à un plan Vigipirate.
Ça n'est évidemment pas le cas.
À son maximum pour des considérations purement politiques. Claude Moniquet qui est avec nous, et merci d'avoir patienté, cher Claude, spécialiste terrorisme et renseignement. Je pense que vous nous entendiez, et si ce n'était pas le cas, vous avez certainement entendu cette information donc, sur le lycée Maurice Ravel et ce proviseur qui a démissionné alors qu'il était menacé de mort. Quand on voit la proportion de jeunes musulmans, et on le disait aussi, qui pensent que la loi de 2004 va à leur encontre, on a raté quelque chose. Est-ce que de votre point de vue, question très simple, est-ce que de votre point de vue, on est en train de perdre la guerre contre l'islamisme ?
Je dirais plus prudemment qu'on n'est pas en train de la gagner. Non, il est clair qu'il y a une accumulation d'erreurs qui ont été commises. Mais pas seulement par le gouvernement actuel, ça fait 40 ans, par la droite, la gauche, tout le monde. Je me rappelle qu'il y a 40 ans, M. Pasqua, à l'époque où l'Iran commanditait des attentats sur le sol français, avait cette formule « nous allons terroriser les terroristes ». Et en définitive, on a négocié avec l'Iran et on a donné à l'Iran tout ce que l'Iran demandait. L'incohérence et l'inadéquation entre le discours d'une part et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas nouveau. Mais je crois effectivement que tout ça a envoyé un très mauvais signal. Le signal qu'on envoie depuis des dizaines d'années, c'est que oui, évidemment, je ne dis pas que la société n'est pas protégée, hein, que le gouvernement, quel qu'il soit, ne protège pas les Français. Mais trop souvent, on a quand même donné le message d'une certaine faiblesse parce que oui, on discute, on négocie, certainement beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans, mais il reste beaucoup de chemin à faire si on veut réellement affronter à la fois l'islam radical djihadiste qui tue des gens, mais aussi l'islam radical politique, celui qui pourrit les esprits des jeunes, celui qui recrute sur les réseaux et celui qui fait qu'aujourd'hui nous avons des radicalisés de 11 ou 14 ans dans les écoles.
Et oui, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'il y a quelques semaines, un enfant de 11 ans avait planifié un projet d'attentat. Les mineurs radicalisés sont véritablement le problème de demain. L'autre inquiétude, et je reviendrai vers vous dans un instant, Claude, elle concerne les détenus radicalisés. C'est le procureur national antiterroriste qui le rappelait il y a quelques jours, Jean-François Ricard. Écoutez son constat, là encore, ça fait froid dans le dos.
Les détenus radicalisés et les détenus terroristes et les sortants de prison. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. Et là encore, pourquoi? C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Ben, c'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse.
Une gestion de masse, Claude Moniquet. On parle de plusieurs centaines d'individus. Il y a de quoi s'inquiéter quand on entend les mots de Jean-François Ricard?
Oui, bien entendu, il y a de quoi s'inquiéter parce que nous avons déjà dans les fichiers en liberté aujourd'hui dans les rues, nous avons déjà 20 000 extrémistes de tout poil, donc 4 à 5 000 sont considérés comme étant le haut du spectre, donc des gens susceptibles de passer à l'acte d'un moment à l'autre. Et dans les semaines, les mois qui viennent, dans les deux ans qui viennent, avec les libérations, on va en avoir 650 à 700 de plus. Or, il faut, ces gens relèvent d'une surveillance de tous les instants, celle qu'on voit dans les films, des filatures, des surveillances statiques, etc. Et c'est impossible. On a, sans trahir de secret, on a la capacité en France de surveiller de manière simultanée, de manière lourde, donc avec tout ce dispositif qui nécessite 30 fonctionnaires à peu près par individu, on a la possibilité de surveiller de 400 à 500 personnes de manière simultanée. Et là, on en a 5 000 plus 7 000 qui vont sortir, on en a 6 000. Bah, le calcul est vite fait, c'est impossible.
En effet. Merci beaucoup, Claude Moniquet. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Ça contribue d'ailleurs à inquiéter la population. Alors, Alice Bouvier, je revoyais en préparant tout à l'heure un sondage d'il y a quelques semaines qui nous rappelait que 86% des Français estiment qu'il faut mettre en place une rétention de sûreté systématique pour les détenus radicalisés en fin de peine. En gros, faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine? Que dit la juriste que vous êtes?
Mais c'est très compliqué parce que en réalité, c'est le.
Mais le sujet de fond, c'est toujours le même, c'est l'état de droit.
C'est ça, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que on sait très bien, moi, pour avoir des clients qui sont en détention, il y a une telle proximité que les services pénitentiaires sont face à un système dans lequel ils savent pas s'ils doivent les mettre ensemble ou s'ils doivent les séparer parce qu'ils radicalisent les autres. Bref, donc du coup, on a un gros problème au niveau de la gestion des prisons aussi, et il faudra encore aussi repenser ça parce que.
Mais moi, il faut assumer le fait que notre société, notre pays, est ultra menacé.
Oui, tout à fait.
Et peut-être s'adapter. Je vous ai coupé, pardon, vous vouliez
parler. Non, pas du tout, mais il y a une question d'adaptation qui est nécessaire et je n'ai pas la réponse à ça.
Et on pense évidemment à ces Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas, un événement de cette nature qui est une cible majeure. On retient un peu tous notre souffle avant ces JO. Tout dernier mot.
Un mot qui est un peu, je dirais pas étrange, mais en tout cas relativement surprenant, c'est qu'au fond, la Russie se retrouve dans le même camp que les pays occidentaux. Frappé aussi par le djihadisme d'Asie centrale. J'espère, sans en être certain, j'espère que les services continuent de se parler, parce que ça pourrait être utile tout de même.
Bon, on a fait le tour. C'est bien, on ressort vraiment avec des ondes positives de ces émissions, avec une actualité qui, à chaque fois, nous rappelle à quel point, et encore, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de parler des suites de cet attentat terrible en Russie, et Vladimir Poutine et le Kremlin qui continuent de cibler l'Ukraine, et plus particulièrement les services de renseignement occidentaux. Là encore, on peut se demander ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Ce serait peut-être une prochaine occasion d'en discuter avec vous. Claude Moniquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est un petit peu pris par le temps. Je vous remercie, spécialiste terrorisme et renseignement. Avant de se quitter ce soir, à se retrouver demain, les unes des quotidiens dans vos kiosques demain matin avec un petit café, Jean-Claude.
Pardon ?
On lit la presse le matin avec un petit café.
Avec un café.
Regardez,
mais pas un café Calva.
Il y avait le sondage aussi sur les alcools préférés des Français. On va voir dans une seconde si on a le temps. Le Figaro, la déroute budgétaire qui est à la une également, qui réveille la tentation de l'impôt. Ben Bruno Le Maire a dit qu'il n'y en aurait pas, mais on verra ce que nous dit le Figaro. Le déficit public également à la une du Parisien aujourd'hui en France. Faut-il vraiment s'inquiéter ? On lira le dossier principal donc du Parisien aujourd'hui. Ouest France pour la presse régionale. C'est Stage qui aide les parents défaillants comme les auteurs de violences conjugales, les parents violents ou négligents ont désormais l'obligation de suivre un stage de responsabilisation. Ce sera intéressant à lire aussi. La Voix du Nord, des méthodes contestées pour les bateaux crevés, manœuvres dangereuses, des interventions de forces de l'ordre en mer pour empêcher le départ de small boats de migrants depuis le littoral sont dénoncées par des associations. La préfecture maritime s'explique dans la Voix du Nord. Qu'a-t-on d'autre? Parce que j'ai pas reçu les autres. Les dernières nouvelles d'Alsace, oui, la disparition de Lina avec des gardes à vue, les premières après 6 mois d'enquête, on verra tout ce que cela donnera. L'immobilier au ralenti également. La Provence, la région en alerte, évidemment, avec ce plan Vigipirate renforcé dans toute la métropole. On termine avec Nice Matin. Bravo à eux. Ah. Bah oui, ils ont raison de se cacher, hein. Parce qu'a priori, c'est plutôt la dame de la Française des Jeux qu'on voit, et puis derrière, les gagnants, derrière le chèque. Millionnaires, du jour au lendemain, ils ont pris 73 millions d'euros. Bah, bravo à eux.
Nouvelle.
Ça fait rêver, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez avec 73 millions d'euros, Yoann?
C'est des nouveaux riches.
Là,
c'est des nouveaux riches.
Il faut, dépourvus,
mais... il faut les taxer, c'est des nouveaux riches.
Bon. Ouais, ben on va les taxer. Ah non, mais c'est net d'impôts, la Française.
Ah oui, mais là, il faut faire un truc exceptionnel.
73 millions d'euros. Ah oui. Amaury, qu'est-ce que vous acheteriez de la laque?
Est-ce que je serai encore là le soir? Je sais pas.
Ça, c'est
que je serai
au moins, c'est honnête.
Au moins, c'est clair. Bon, merci les amis. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir. Martin Mazur l'a préparé, tout comme Maxime Fer et Coralie Deleplace. Je vous dis rendez-vous avec l'édition de la nuit d'abord. Qui est à l'édition de la nuit, les amis? On m'a pas informé.
Adrien Spiteri.
Ah ben, Adrien Spiteri, heureusement que Yoann est là, Martin. Hein, merci beaucoup. Et je plaisante. Et demain, ben, c'est Soir Info, mercredi. À demain, bonne nuit.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.